Ok, ça enregistre. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode Mémo. C'est un format en solo comme toujours et tout ce qu'on va se raconter, eh bien, ça se passe entre vous et moi. Bienvenue, installez-vous confortablement. J'espère que vous êtes en forme. Au programme aujourd'hui, ça va être, je pense, un épisode un peu plus rapide que d'habitude. Enfin bon, je dis ça, à chaque fois que je dis ça, je le fais plus long. Mais l'idée, c'est qu'a priori, selon le plan que je me suis fixé, ça devrait être un peu plus rapide que les autres épisodes, puisque aujourd'hui, on va faire deux trucs. On va faire le bilan de mon trimestre, avec certes un peu de retard, on est le 16 avril au lieu du 1er avril, mais j'ai les bonnes excuses que je vais vous partager juste après. Et surtout, parce que l'épisode n'est pas non plus là que pour parler de moi, je vais vous partager un peu ma méthode pour faire ce bilan-là et comment est-ce que moi j'ai préparé mon trimestre suivant. Donc avec un certain nombre de questions, ça fera le bon parallèle avec un ancien épisode que j'ai fait, qui est l'épisode 79, où je présentais mon premier plan de 90 jours pour 2024. Et donc j'avais partagé un peu des conseils un peu plus macro sur pourquoi est-ce que c'est important, comment fonctionne la méthode un peu des 90 jours. Et là, je vais rentrer encore plus dans le concret avec des questions, par exemple, très précises auxquelles vous pouvez répondre pour eh bien, préparer votre prochain plan, si ce n'est pas encore déjà fait. Mais avant ça, petite intro, pour celles et ceux qui me découvrent avec cet épisode-là, eh bien, je m'appelle Alexis Michela, je suis le fondateur de Tribu Indé, un écosystème de contenu gratuit et payant pour accompagner eh bien, tous les indépendants, consultants et prestataires de services à réduire leur stress, de ne pas trouver de nouvelles missions. Et pour ça, ma philosophie, eh bien, c'est de travailler sur trois gros piliers. Le premier pilier, c'est une offre et un positionnement carré. Deuxième pilier, c'est l'apprentissage de la vente pour trouver des nouvelles missions, augmenter son taux de conversion et facturer plus cher. Et enfin, le troisième pilier, c'est une organisation au service de votre croissance et de votre développement personnel et professionnel. Comme toujours, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien vous avez toutes les infos sur tribuindé.com. Donc, nous enregistrons le mardi 16 avril 2024. Il est un peu plus de 14h et je suis un peu fatigué. Je vous cache pas que les dernières semaines ont été très éprouvantes. Je vais vous en parler juste après. Ce qui fait que j'ai peut-être un ton un peu moins dynamique que d'habitude. Mais en tout cas, même si je suis pas mal fatigué, je suis très content de ce qui se passe en ce moment, à la fois d'un point de vue perso et aussi pro. Donc ça, c'est très cool. Et je ne lâche pas l'affaire. Je sais qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Mais voilà, j'essaye de tenir le plus possible ces épisodes de podcast, notamment Mémo, parce que je sais que certains d'entre vous les attendent avec impatience tous les jeudis. Et pour une fois, vous noterez, j'enregistre le mardi, non pas le mercredi ou le jeudi matin, ce qui fait qu'on a de l'avance. Et ça, c'est très très fort. Et ça, est-ce que ça veut dire qu'on est parti sur un trimestre encore mieux organisé que le trimestre précédent? L'avenir nous le dira. Sinon, j'en profite, on est à 192 notes sur Spotify. Ne me laissez pas avec 192. Allons chercher les 200 notes d'ici l'épisode de la semaine prochaine. S'il vous plaît, il y a 8 notes à aller chercher. Vous êtes des milliers à écouter l'épisode et vous n'êtes clairement pas des milliers à avoir noté l'épisode et le podcast de manière générale. Donc, s'il vous plaît, faites-le sur Spotify en priorité et puis sur Apple Podcast, s'il vous plaît. C'est très, très cool. Je vois quand même un peu une corrélation entre quand l'épisode est globalement dans le top 20, j'ai l'impression qu'il y a des petites vagues d'écoute en plus de personnes qui viennent notamment sur Apple, qui viennent via les recos et tout. J'ai pas trop de classement, je sais pas trop comment ça fonctionne sur Spotify, mais j'ai l'impression quand même que ça a un impact, les notes et autres, donc notes, commentaires, donc n'hésitez pas à aller glisser votre petite note, vraiment ça vous prend pas beaucoup de temps, et moi ça me régale et ça me fait très plaisir. Et bien écoutez, ce que je vous propose, comme d'habitude, deux parties. On va d'abord parler eh bien, des coulisses, de ce qui s'est passé sur ces trois dernières semaines, ce qui explique aussi peut-être ma petite voix et mon début de fatigue sur cette fin de trimestre. Et puis ensuite, on passera au mémo de la semaine qui est globalement, je vais reprendre tout ce qu'on s'est dit au début de l'année sur mes objectifs du trimestre et puis on va voir si je les ai accomplis ou pas. Spoiler, tout s'est pas passé comme prévu et pourtant, c'était un très très bon trimestre, donc on va revenir là-dessus. Et bien, sans plus tarder, passons dans les coulisses. Donc, je vous le disais, effectivement, les trois dernières semaines ont été assez éprouvantes, et je dirais même en fait le mois qui vient de s'écouler, quoi. Donc, en fait, à partir du 15 mars, qui en fait signifie globalement la fin du trimestre, tout s'est un peu accéléré parce qu'en fait, il y a pas mal de trucs sur le trimestre sur lequel j'ai bossé un peu en sous-marin pour que tout sorte globalement fin du trimestre. Donc, il y a eu notamment trois gros événements là sur mars et début avril. Premier gros événement, j'en ai déjà parlé, mais ça a été d'enregistrer mon livre audio. Peut-être que pour certains, ça paraît un peu insignifiant. Pour moi, ça veut dire quand même pas mal de choses parce que, en fait, le livre, il a quand même. Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit un livre en 2021 qui s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, qui est aujourd'hui un best-seller, mais surtout le seul livre crédible qui parle de freelancing en France, qui est assez fou d'ailleurs. Il y a eu quelques tentatives de bouquins qui sont sortis un peu sur le freelancing, mais qui ont été aussi vite oubliés que dès qu'ils sont sortis. Donc c'est cool pour moi. En fait, ça veut dire quelque chose d'assez fort parce que du coup, 3 ans après, le livre a été racheté. C'est-à-dire que les droits d'auteur ont été rachetés à Erol qui a édité mon livre et publié mon livre. Et donc, ça a été racheté par une autre boîte qui s'est dit il y a un potentiel marché d'aller faire ce livre-là en audio. Et en plus de ça, ça a été fait, en tout cas, une des plateformes, donc la plus grosse plateforme est Audible, mais il y a une Audible donc, qui appartient à Amazon, mais il y a une autre plateforme qui s'appelle Nextory, je crois, qui est vachement intéressée par le livre et qui va en faire une vraie campagne de communication autour. Donc c'est vachement intéressant de se dire le livre est sorti en 2021, il est toujours d'actualité, il est encore plus d'actualité parce qu'en fait, il est remis sur le devant de la scène. Donc là, on a clairement affaire à un contenu intemporel et c'est cool parce que c'était l'ambition du livre, que les ventes ne s'essoufflent pas et qu'on n'entende plus jamais parler du livre, alors qu'en réalité, en vrai, j'en fais quasiment pas la promotion. En fait, le livre continue de vivre grâce à vous, c'est-à-dire celles, ceux qui continuent d'acheter le livre, qui le découvrent, qui le recommandent, etc. Et pour ça, bah, un grand merci. Mais c'est vrai que moi, je m'ai fait assez peu d'efforts de communication. En vrai, j'en parle pas suffisamment, je pense. Et donc, c'est quand même un moment assez fort parce que bah, j'ai passé 2 jours et demi à relire mon livre, quoi. Et donc, relire chaque mot, chaque phrase, chaque page, ce qui a été assez, assez fou comme sentiment. Presque émouvant sur la fin du livre, notamment quand on arrive à la conclusion, les remerciements, parce que je me souviens extrêmement bien des moments. J'ai des flashs un peu de moments où j'ai écrit ce livre-là, à quelle période, qu'est-ce que je faisais. Et j'avais un emploi du temps, peut-être que je pourrais en parler, mais un emploi du temps assez cool, quoi. En gros, j'écrivais le matin de 9h à 13h. Et l'après-midi, c'était plus balade, je sortais, je faisais du sport, etc. Mais en fait, j'avais pas encore tous les produits bootcamp, réacteur, etc. Donc, Tribuandé n'était pas vraiment un début de business. Et vu que j'avais de la trésorerie, j'avais gardé un client. Mais en gros, j'avais arrêté tous les autres clients. Donc, ce qui fait que en fait, la moitié de mon temps était plutôt libre. Donc ça, c'était très cool. C'est plus trop le cas maintenant. Mais du coup, voilà, il y a aussi une forme de nostalgie par rapport à l'époque à laquelle j'ai écrit ce livre-là, sans savoir que 3 ans après, il allait se passer tous ces trucs-là sur Tribuandé et que j'aurais accompagné des centaines de personnes aujourd'hui sur les différents programmes. Donc c'était très cool. Mais comme d'hab, j'étais trop confiant sur ce projet-là en me disant « Non, mais en fait, je vais lire mon livre, ça va être chill, et puis je pourrai bosser l'après-midi, le soir, etc. » Que nenni, quoi. Impossible. Ça a été extrêmement fatigant et en fait, je me traîne encore cette fatigue-là aujourd'hui. Parce que c'est un métier, en fait, de lire un livre et moi, je suis pas comédien. Et donc, même si c'est mon livre et que j'ai l'habitude de faire des podcasts, de parler tout seul, c'est quand même différent, là. Donc voilà, donc il y a eu ça et en fait, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que je suis allé à Bordeaux pour enregistrer mon livre. En plus, je suis allé à Bordeaux. Moi, j'habite à Rennes. Je vous cache pas la galère pour aller à Bordeaux quand on est à Rennes. Enfin, c'est un enfer. Et moi, les transports, ça me fatigue. Moi, c'est pas du tout un moment où je peux taffer super bien et tout. Moi, c'est un truc que j'aime pas forcément. Donc, il y a ça à rajouter. Et en fait, juste après, la semaine d'après, littéralement, je suis rentré à Rennes le vendredi. Et en fait, le mardi, on lançait le réacteur avec une masterclass, etc. Donc, le réacteur qui est le deuxième programme d'accompagnement sur Tribuandé, qui est focalisé sur la vente. Donc toute la partie cycle commercial, je génère des opportunités, je conclue et je transforme ces opportunités en missions. Et donc là, c'était la deuxième promotion. La première promotion avait eu lieu en novembre. On a fait un peu moins de 150 personnes qui ont intégré la promotion 1. Et donc là, on relançait plutôt que prévu. Donc je vais en reparler plus tard, mais ça a été aussi un truc. Parce qu'on le relance plutôt que prévu, bah, en fait, il faut préparer le lancement pendant le trimestre. Donc le plan de 90 jours numéro 1, alors que ce n'était pas inclus dans les projets. Ce qui fait que ça chamboule un petit peu tout et que ça a été des grosses journées de fin. Même si c'est des lancements assez minimalistes qui me prennent assez peu de temps, il y a quand même toute la charge mentale derrière. Et donc, on a lancé le réacteur, la promotion 2, le lancement qui a duré une grosse semaine. Toujours beaucoup d'échanges, de questions en asynchrone. Et puis, on avait mis en place aussi avec Sonia, qui m'accompagne sur Tribuandé depuis quasiment un an maintenant. Eh bien, on a mis en place des créneaux d'appel. Donc, pareil, ça prend beaucoup de temps. Et on a fait ça sur les 2 ou 3 derniers jours, je me souviens plus exactement. Mais donc c'était cool, quoi. On a fait une trentaine d'appels, peut-être un peu moins. Et donc ça pareil, ça prend pas mal d'énergie, parce qu'il faut être super bon et hyper concentré à date. Et en fait, j'ai terminé le lancement jeudi dernier. Et en fait, tout de suite après, on est parti en week-end avec la promotion 5 du bootcamp pour un peu fêter la fin du bootcamp. Et tout ça, ça s'est enchaîné. Et vous voyez, je suis rentré hier, et là je repars 3 jours en mode un peu mastermind avec un groupe de pairs pour bosser un peu sur le business et puis un peu être un peu déconnecté, enfin être dans un endroit en mode d'un peu déconnexion. Mais ce qui fait que là, j'enchaîne et que c'est un peu infernal en termes de rythme, mais c'était trop cool. Le week-end de la promotion 5, ça s'est super bien passé. Et en plus, j'étais content de faire ce week-end-là parce qu'on n'avait pas pu faire un week-end avec la promotion 4. Mauvais timing, on s'est mal organisé, etc. et c'est aussi de ma faute, et donc j'ai pas pu leur proposer un vrai week-end de promotion. Donc en fait, finalement, moi, ça faisait plus d'un an que j'avais pas fait de week-end promo bootcamp, et c'était trop bien, la synergie était folle. Moi, j'ai toujours cette petite appréhension, même si ça faisait 12 semaines qu'on passait ensemble, on était quand même 12 semaines en ligne. Alors même si on se voit deux fois par semaine, qu'il y a des groupes de responsabilité au sein même de la promotion de 30 personnes, on ne sait jamais comment ça va se passer en direct sur un week-end, etc. Et c'était trop cool, super ambiance, les gens se sont super bien entendus, en tout cas moi, ce que j'ai vu de l'extérieur. Et j'avoue qu'à chaque fois, j'ai ce truc un peu... putain, ça me rend quand même super fier et c'est presque émouvant de voir... que ces personnes-là, il y a 12 semaines, en fait, elles ne se connaissaient pas. Elles ont tissé des liens, elles ont des valeurs communes, elles se sont marrées, elles ont envie de se revoir, etc. Et en fait, c'est trop cool. Alors que, en fait, le lien de tout ça, c'est quoi? C'est une formation business où on peut se dire, ouais, c'est un peu chiant. Mais je considère qu'on a réussi et je pense qu'on est une des seules formations et un des seuls programmes qui réussit à faire ça, à créer une vraie synergie de groupe. Une vraie synergie de groupe qui continue de vivre même après le bootcamp et qui donne envie à des gens de se retrouver en vrai, en fait. Et ça, c'est quand même fort parce que du coup, tu viens pour le côté égoïste de « j'ai envie de me former », mais tu restes impliqué et tu as envie de continuer en fait, l'aventure tribu indé au sens large parce qu'en fait, tu rencontres des gens géniaux et on fait tout pour qu'il y ait des rencontres, même en asynchrone, qui puissent se faire, même à travers un écran, etc. Donc, c'était trop cool, c'était trop bien. Comme d'hab, c'est super fatigant, mais on a bien rodé le process maintenant. Et c'était juste trop bien, quoi. Enfin, on était du côté de Versailles, donc on s'est fait des petites balades au château de Versailles, des petits runs, c'était des petites soirées, j'allais dire cuisine. En vrai, je n'ai pas cuisiné. Voilà, je l'avoue, je n'ai pas été un très bon cuisinier commis, puisque je suis passé outre les mailles du filet là-dessus. Mais en tout cas, c'était vraiment trop bien. On a fait des jeux et tout. Enfin bref, c'était trop bien. Et ça me rend presque nostalgique, quoi. En gros, le dernier cours a eu lieu hier, donc là, le 12e cours du bootcamp. Et j'étais hyper ému, quoi. Franchement, j'étais hyper ému de voir tous leurs sourires, tous les messages, etc. Et de se dire que, OK, on a fini un chapitre, quoi. Toute l'expérience, quels que soient les programmes, d'ailleurs, bootcamp ou réacteur, il y a une expérience qu'on appelle l'expérience alumni, qui est une vraie expérience où il se passe des choses, où on anime des choses, et c'est notamment Sonia qui est en charge de ça aujourd'hui sur Tribu 1D. Mais c'est quand même un sacré gros chapitre qu'on vient de fermer avec la promotion 5, quoi. On a passé vraiment 12 semaines de manière assez intensive. Alors c'était encore plus intensif pour eux, puisque c'était eux qui bossaient, et moi j'étais, on va dire, j'étais le chef d'orchestre de tout ça, et j'étais à fond avec eux. Mais quand même, y a un premier chapitre qui vient de se terminer, quoi. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé, ce qui explique pourquoi je suis un peu fatigué sur cette fin de trimestre et ce début de trimestre. Donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir prendre quelques jours off parce qu'on enchaîne pas mal de choses. Je vais vous présenter ça dans le plan de 90 jours du Q2, donc du trimestre 2 2024. Eh bien, il y a encore pas mal de choses qui arrivent, quoi. Et donc voilà, donc là je repars, 3 jours en mode un peu mastermind. On est à 1 heure de Rennes, dans un super hôtel et tout. Je ferai des petites photos pour celles et ceux qui sont sur Instagram. Eh bien, vous avez déjà vu quelques photos à l'heure où je publie cet épisode. Eh bien, sans plus de transition, je vous propose de passer au mémo de la semaine. Donc, j'ai découpé ce mémo de la semaine en 4 parties. La première partie, c'est le rappel de mes intentions pour l'année 2024. Pour celles et ceux qui n'avaient pas suivi le début d'année comme ça, vous avez un rapide raccourci là-dessus. La deuxième partie, c'est sur mon plan 90 jours Q1, donc le trimestre 1. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse vous dire un peu qu'est-ce qu'on a coché, qu'est-ce qu'on n'a pas coché, où est-ce qu'on en est sur ce plan-là. La partie 3, c'est de faire une rapide analyse, conclusion et vous partager un extrait des leçons que j'ai tirées de ce trimestre-là, et donc que vous pourrez appliquer de votre côté. Et enfin, la dernière partie, c'est mon plan pour réussir Q2. Donc, vous présenter mon plan et surtout, comment est-ce que vous pouvez aussi construire votre prochain plan de 90 jours. Et il y aura 4 phases. Donc voilà un petit peu... En fait, finalement, on a quand même pas mal de trucs à voir, hein. Je suis en train de dire l'épisode va être moins long que d'habitude, mais comme d'hab, je suis vraiment trop confiant là-dessus, quoi. Donc, sans plus tarder, on va passer sur la première sous-partie, rappel de mes intentions pour l'année 2024. Donc, pour celles et ceux qui me découvrent et qui ne connaissent pas forcément l'écosystème Tribu 1D, je le rappelle, écosystème, aujourd'hui, c'est plutôt un business de vente de contenu et d'information. Donc, en gros, il y a un écosystème de contenu gratuit qui existe, podcast, LinkedIn, newsletter, etc. Et puis, il y a des programmes d'accompagnement, le réacteur, petite formation, d'un point de vue prix notamment, moins de 600 euros pour focaliser sur la vente de prestats de services. Ensuite, on a le bootcamp, qui est un format live deux fois par an, petite promotion sur candidature, produit plutôt élevé. On est entre 2000 et 2700 euros par personne, avec 30 personnes à chaque fois dans chaque promotion. Et puis, on a d'autres choses, de l'accompagnement individuel, quelques prestats parfois de freelancing, parce que je reste quand même freelance. Et puis, on a toute une partie partenariat qui représente, en tout cas, qui m'a permis de signer quand même pas mal de choses ce trimestre-là, je vais vous en parler. Donc voilà un peu en gros l'écosystème Tribuandé, et on est focalisé sur la vente, enfin sur le freelancing, sur comment est-ce qu'on peut vendre son temps et ses compétences sur la prestation de service. Du coup, moi, pour simplifier un peu la manière dont je peux évaluer et travailler sur mon business, j'ai décidé d'avoir quatre piliers qui sont un peu, si on était dans une boîte plus traditionnelle, ça pourrait être des business units, ça veut dire que ça pourrait être des départements dans l'entreprise. Bon, il se trouve que la réalité, c'est que les départements chez Tribuandé, bah, je suis déjà tout seul à temps plein. On a une toute petite équipe, mais je suis quand même tout seul à temps plein et c'est quand même moi qui suis responsable de ces quatre piliers-là. Donc, ces quatre piliers-là, c'est quoi ? Premier pilier, c'est la partie contenu. C'est ce que vous êtes en train d'écouter, par exemple, ici. C'est ce que je peux faire sur LinkedIn. C'est ce que je peux faire sur Instagram. C'est des conférences que je peux donner, etc. Deuxième pilier, c'est l'acquisition. Donc là, l'idée, c'est de se dire, moi, je dirais que l'objectif de tous les contenus, c'est la newsletter, parce que c'est dans cette newsletter-là que je partage le plus souvent les différentes offres, les ouvertures de formation, etc., etc. Donc en fait, moi, la newsletter, c'est un des actifs les plus importants pour Tribuandé. Et donc, comme toujours, il faut donner envie aux gens de rejoindre la newsletter. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce que je fais pour créer des contenus d'acquisition, qui sont des contenus différents de juste des contenus de visibilité, comme peut être le podcast. Le podcast, la réalité, c'est que c'est un super format parce que ça crée une connexion émotionnelle avec vous qui m'écoutez potentiellement chaque semaine. C'est un podcast qui est un format libre sur lequel je n'ai pas d'objectif ou d'attente très particulière d'un point de vue acquisition. Et surtout, c'est un format où la plupart d'entre vous, soit vous l'écoutez, en fait, vous n'avez pas votre portable sur vous. Il est probablement dans votre poche ou je ne sais pas trop où d'ailleurs, mais en gros, vous êtes en train souvent de faire autre chose en écoutant le podcast. Ce qui fait que c'est difficile de vous dire, bah tiens, mets ton email, récupère cette ressource-là, etc. Ça fonctionne, mais c'est pas le format qui est optimisé pour. C'est aussi pour ça que c'est compliqué de vous demander d'aller noter le podcast, parce que souvent vous dites, ok, je le ferai après, et en fait, l'épisode est fini, et vous pensez pas forcément à le faire. Donc, n'hésitez pas à faire pause et à noter l'épisode de podcast, s'il vous plaît. Donc, en fait, le pilier 2 sur la partie acquisition, c'est vraiment des contenus qui sont vraiment pensés là pour aller chercher du mail. Soyons directs là-dessus. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est la partie conversion. C'est globalement qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous avez rentré votre email. Donc c'est les newsletters que je crée chaque semaine. C'est les séquences de vente, les séquences d'annonces, etc. En gros, tout ce qui va essayer de convaincre le plus de personnes de nous rejoindre dans la tribu et donc parmi les clients de Tribuandé. Et puis ensuite, le quatrième pilier, eh bien, c'est tout ce qui est produit et expérience. C'est-à-dire que l'expérience et la qualité des contenus que vous avez là aujourd'hui quand vous écoutez alors que vous n'êtes pas client, n'a rien à voir avec la partie produit expérience. C'est plutôt que la partie produit expérience, c'est 100 fois beaucoup plus poussé, beaucoup plus abouti en termes de suivi, en termes d'expérience, en termes de gamification, bien évidemment, que ce que vous avez en contenu gratuit. Et donc, c'est pour ça que ça en fait un pilier à part entière. Donc, voilà un petit peu les quatre piliers qui existent de mon côté, contenu, acquisition, conversion, produit et expérience. Donc, sur 2024, moi, j'avais trois gros objectifs qui étaient assez ambitieux et qui regroupent ces quatre piliers-là. Le premier, comme beaucoup d'entre vous, je l'espère en tout cas, j'ai un objectif de CA que je ne vais pas vous révéler parce que j'en ai déjà parlé, mais je ne vois pas forcément l'intérêt de vous révéler un objectif de CA. Il y avait un autre objectif qui était de doubler l'audience, qui est déjà conséquente, notamment sur la newsletter, mais de doubler cette audience-là d'ici la fin d'année. Objectif très ambitieux parce que je n'ai pas encore tout le plan d'action exact pour y arriver. Et enfin, troisième objectif ambitieux là-dessus, c'est de développer l'écosystème produit, notamment au semestre 2. Donc aujourd'hui, il y a deux gros produits phares, le bootcamp et le réacteur. L'idée, c'est de développer cet écosystème produit avec un nouveau produit cette année sur lequel je vais travailler sur le S2 et qui sortirait du coup idéalement au S2. Et enfin, il y avait un objectif un peu plus perso, que je l'avais appelé objectif Saiyan, qui a parlé à pas mal d'entre vous qui m'avaient envoyé un message après l'épisode des débuts d'année, où là, c'est plus sur le plan perso, dans la continuité de ce que je faisais sur 2023, mais d'accélérer sur la partie un peu plus sport, prendre soin de moi, traquer plus de choses sur la partie alimentation, sommeil, etc. Voilà. Un truc important d'ailleurs, parce que j'ai eu la question de « Mais ok, quand tu fais tes objectifs à l'année, est-ce que tu as déjà en tête tout ton plan d'action sur tous les trimestres ?» Bien sûr que non. En fait, ce que je fais, c'est que là, je vais vous présenter le plan Q2, mais il y a 3 mois, je ne savais pas exactement ce que j'allais intégrer dans mon plan trimestre 2, et j'ai encore moins d'idées sur le trimestre 3 et le trimestre 4. Et donc ça, c'est important, parce qu'en fait, c'est normal s'il y a des zones d'ombre sur comment est-ce que je vais faire ça, qu'est-ce que je vais y inclure, parce qu'en fait, pour créer mon prochain plan de 90 jours, je me base beaucoup sur ce qui s'est passé, ce que j'ai dépassé, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été moins bien fait que prévu, etc., sur le plan précédent, pour pouvoir capitaliser dessus, générer des nouvelles idées et attaquer un nouveau plan d'action. Et donc, si je fais tous mes plans, en fait, dès le 1er janvier 2024, en vrai, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Enfin, du coup, ça ne sert à rien de faire un plan de 90 jours parce que du coup, c'est hyper rigide et moi, ce n'est pas comme ça que je vois mes plans d'objectifs. Donc voilà, ça, c'était le petit point sur les intentions pour l'année 2024. Donc, une fois qu'on a ces intentions-là, on passe à la partie 2 sur mon plan de 90 jours sur le Q1, donc sur le trimestre 1. Qu'est-ce qui s'est globalement passé? Alors, je ne vais pas revenir en détail sur tous les micro-trucs que j'avais prévus sur le trimestre 1. Si ça vous intéresse que je détaille mon plan de 90 jours pour le trimestre, je vous renvoie vers l'épisode 79, où là, je détaille beaucoup plus cette partie-là. Donc, j'avais 4 objectifs qui étaient forcément, bien évidemment, reliés à l'un des 3 objectifs 2024 dont je vous ai parlé juste avant. Le premier objectif, c'était Show Up Every Week. Donc, c'était sur la partie contenu, c'était le pilier contenu. Et là-dedans, j'avais 4 objectifs d'action. J'avais 12 épisodes de podcast à publier, 45 posts LinkedIn à faire, recycler pas mal de contenu sur Insta plus la partie story, et puis relancer la machine short. C'est-à-dire qu'il y a un an, j'avais fait une trentaine de shorts qui avaient fait plusieurs millions de vues, qui avaient bien marché. Donc, je m'étais dit, en fait, c'est con parce que je pense que j'ai une plus-value. J'ai une plus-value sur l'écriture, sur la partie copywriting, etc. Et j'ai plein d'idées, donc ce serait con de laisser ça traîner. Et donc, je m'étais fixé ça. Spoiler, je me fixe... j'ai essayé de noter chaque objectif sur 10, sur son pourcentage un peu de complétion. On est à 6 sur 10 et j'ai été un peu généreux. J'ai été un peu généreux sur le 6 sur 10 parce qu'on n'y est pas à 100%. Globalement, les épisodes de podcast, il y a eu 12 épisodes de podcast ce trimestre-là. Donc pas peu fier, j'ai tenu ça. Et c'est cool parce que vous me le rendez bien puisque les écoutes sont au rendez-vous. J'ai toujours plein de retours, donc ça, c'est très cool. Donc, on avait fait les 12 épisodes de podcast. Maintenant, sur les posts LinkedIn, j'avais prévu d'en faire 45, j'en ai fait 36, ce qui fait à peu près 3 posts par semaine. Et pourtant, du coup, l'objectif est rouge, mais au final, tout est au vert. C'est-à-dire que je fais à peu près plus 25-26% d'impressions en plus par rapport au trimestre précédent. Plus de commentaires, plus de likes, plus de vues, etc. Donc en fait, j'ai publié moins que prévu, mais on est quand même dans le vert par rapport au trimestre précédent, et donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est Nicolas, le monteur du podcast, qui m'a envoyé ça sur LinkedIn l'autre fois, qui m'a dit, pour quelqu'un de ce côté, c'est pas mal parce que tu fais partie d'un classement. Donc, c'est les classements LinkedIn qui sont faits par une boîte, Favicon. Je ne sais pas globalement comment ils font leur classement, mais du coup, c'est intéressant parce que ça donne quand même des bonnes indications. Et donc, je fais partie du top 8, je crois, top 8, sur la partie online business, donc dans la catégorie qui me correspond parfaitement. Et ce qui est vachement intéressant, au-delà du top 9, top 8, où en vrai, je m'en fous un peu, ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai aucun concurrent direct qui est au-dessus de moi dans ce classement-là sur LinkedIn, alors que je ne suis pas celui qui poste le plus. Donc c'est très cool. C'est-à-dire que si je mets encore plus d'intensité, créer des contenus que moi je juge des contenus d'expertise, en fait ça fonctionne sur LinkedIn. Et j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on tend plus que sur du contenu lifestyle. Donc c'est très très bien pour moi. Et c'était cool de voir qu'il y avait ce classement-là, etc. En vrai, moi je ne base pas mon business sur LinkedIn, donc c'est plus un clin d'œil cool, merci Nicolas d'avoir repéré ça. Mais voilà. Mais par contre, le seul truc un peu négatif, le seul point où je me dis, j'aurais pu aller plus loin, c'est que j'ai pas vraiment eu de contenu outstanding. C'est-à-dire, j'ai pas eu un contenu qui a explosé. Alors certains me diraient, bah, c'est bon signe, ça veut dire qu'en fait tu gardes une qualité commune, t'as une audience qui est suffisamment bien engagée, et donc en fait j'ai pas de gros écarts entre mes plus mauvais contenus entre guillemets et mes meilleurs contenus. Globalement, la plupart de mes contenus, si je prends une moyenne, on est entre 10 000 et 20 000 vues à peu près par poste, donc ce qui est pas mal. Mais du coup, il n'y a pas de gros contenu qui va faire exploser le truc et qui va vraiment me permettre de m'ouvrir à une autre audience, par exemple, ce qui est quand même parfois l'objectif de LinkedIn. Et ça, je ne l'ai pas fait. Donc, en fait, on peut le voir des deux côtés. C'est une bonne chose parce que du coup, bah, je reste aligné sur ma ligne éditoriale et puis j'ai des gens qui sont engagés, qui restent et qui reviennent et qui sont contents de retrouver mon contenu. Mais en même temps, je n'ai pas fait de gros pic de... Putain, je passe dans une autre sphère sur certains contenus qui me permettent de toucher une nouvelle audience qui derrière bah, est intéressée par des contenus plus expertise. Donc ça, c'est aussi un truc que j'ai envie de travailler sur le prochain trimestre. Ensuite, contenu Instagram, recyclage et story. En vrai, j'ai fait plus de stories, j'ai partagé un peu mes concours, enfin mon challenge un peu run, etc. Donc ça, c'est cool. Et en fait, les stories fonctionnent très très bien, quoi. Je fais des stories entre 600 et 1000, 1200 vues par story. Ce qui est quand même énorme par rapport au... si on regarde le ratio abonné. Et je pense que je suis largement au-dessus de la plupart des gens sur mon marché, sur ce truc-là. Alors, j'ai pas une énorme audience, mais ça, c'est vachement intéressant. Là où sur le recyclage, on a testé des trucs en début d'année. Je suis pas hyper convaincu. Je trouve que ça performait pas très bien. Et en fait, c'est cool pour les celles et ceux qui me connaissent, mais en fait, c'était beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Donc, pour l'instant... je suis plutôt en mode story et tout que d'aller recycler des posts qui existent par ailleurs. Même s'il y en a déjà pas mal, on a refait toutes les analyses de prospection, j'ai partagé toutes les fiches freelance, certains contenus un peu expertise. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, les gens sont moins chauds de ça sur Insta. Et puis en fait, la réalité, c'est que si tu fais pas de la vidéo sur Insta, en fait, ça sert à rien, quoi. Voilà, et donc ça explique aussi pourquoi j'ai pas relancé la machine short, parce qu'en fait, je l'ai mis dans mes objectifs, j'ai pas voulu le changer pour que bah, on puisse vraiment se faire un bilan honnête entre nous, mais en fait j'avais aucune stratégie là-dessus, donc j'ai mis zéro focus. Et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi est-ce que je veux faire des shorts, c'est quoi l'intérêt, etc. En revanche, et ça c'est cool, sur la fin du trimestre, j'ai pas mal dit le sujet YouTube, notamment au mois de mars. J'ai fait appel aussi à quelqu'un pour m'accompagner sur... les tendances, les angles, une stratégie édito, etc. Une analyse de l'écosystème YouTube qui existe aujourd'hui sur le marché dans lequel je me positionne. Et c'est très cool parce que ça confirme certaines tendances que j'avais, certains pressentiments que moi j'avais alors que je ne suis pas un expert de la plateforme. Et donc, il risque d'y avoir des belles choses qui arrivent sur le trimestre 2, avec notamment aussi des interviews vidéo qui arrivent, qui sera le format entre guillemets facile à produire, et je prépare d'autres formats dont je ne veux pas vous parler tout de suite, mais en tout cas je prépare des formats qui, si j'arrive au bout de ces formats là et que ça fonctionne, on tient quelque chose d'assez exceptionnel. Donc je vais pas mal miser aussi là-dessus sur trimestre 2, mais surtout trimestre 3 et 4, parce que je crois beaucoup YouTube, très peu de sur ce que je veux faire et sur ce sur quoi on a discuté avec l'équipe qui m'a aidé sur la partie strat. Il y a assez peu de personnes en fait qui se positionnent là-dessus. On a beaucoup de contenu très infopreneur, très vente, etc. Mais on a assez peu de contenu comme moi j'ai envie de les penser. Et donc si on arrive à craquer ça, on crée un sacré momentum sur Tribu 1D. Et vous savez que moi j'aime bien fonctionner comme ça. J'aime bien avoir des projets waouh qui sortent du lot. Donc j'ai été un des premiers à sortir un bouquin. J'ai été le premier à sortir un bouquin sur la partie freelancing. On a lancé les Break 1D, qui est le gros événement annuel pour les freelances depuis 3 ans maintenant, et ça va être la 4e année cette année. J'ai sorti un bootcamp alors qu'à l'époque les bootcamps, bah en fait il y en avait quasiment pas. Et ça remonte il y a 3 ans. Aujourd'hui ça paraît un peu plus normal, mais il y en avait pas il y a 3 ans. Et donc j'aime bien être dans ce truc de comment est-ce que je vais chercher la faille dans les contenus et dans le marché dans lequel je suis, pour essayer de sortir du lot. Donc c'est aussi ce que je compte faire sur YouTube. Donc voilà pourquoi sur ça je me mets un petit 6 sur 10. Ensuite, j'avais la partie du coup expertise plus. Donc ça, c'était sur la partie acquisition. J'avais 3 gros sujets. Créer une masterclass en live. Sortir une masterpiece. Donc c'est un gros contenu. C'est pas juste des petits contenus sur LinkedIn. C'est un gros contenu qui me permet d'aller faire de l'acquisition. Donc globalement, un lead magnet pour celles et ceux qui sont assez marketeurs, pour aller récupérer l'adresse email. Et puis, je ne sais plus pourquoi j'avais écrit ça dans ma folie. Créer des contenus un peu exclusifs 24 heures, en mode ça s'auto-détruit au bout de 24 heures, pour pareil, jouer un peu sur le FOMO et voir si ça prenait ou pas. Là-dessus, on est sur un bon 4 sur 10. Pourquoi ? Parce que la masterclass, je l'ai faite. Alors, je l'ai faite début avril, mais on est entre nous. En vrai, je le fais passer sur le trimestre 1. Parce que voilà, ça faisait partie des objectifs. Je l'ai fait certes début avril, mais vas-y, en vrai, ça va dans le trimestre 1. Et donc, j'ai fait une masterclass. C'était la première que je faisais. On l'a faite en live. C'était sur la vente. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. C'était très cool parce que, comme d'hab, vu que j'étais un peu dans le rush, j'ai très peu communiqué dessus. J'ai dû faire 2 ou 3 posts LinkedIn et un push dans les newsletters. Et on a eu quasiment 550 inscrits, un peu plus même. Donc, c'est quand même pas mal. Avec un taux de présence, on était à 60-65%, donc c'est quand même très très bien. Et puis ça m'a permis de lancer l'ouverture des inscriptions pour le réacteur pour la promo 2. Et donc ça a plutôt bien marché. Voilà. Et sinon, j'ai pas publié de masterpiece en tant que tel et j'ai pas fait de contenu exclusif. Donc voilà pourquoi on fait un 4/10, parce que ça m'a permis quand même de relancer. Certes, c'était pas de l'acquisition pure, mais ça m'a quand même permis de relancer le réacteur et de faire des très bons chiffres sur le réacteur là-dessus. Parce que en fait, c'était pas prévu que je relance le réacteur si tôt. Initialement, dans mon plan, ça devait sortir fin avril, mais j'avais envie de le sortir rapidement parce qu'il y a d'autres projets qui arrivent, notamment les breaks indés, qui va être le gros projet sur le trimestre 2. Et en fait, pas mal de gens lançaient des choses en avril, et donc je voulais pas arriver après tout le monde. Et donc voilà pourquoi est-ce que j'ai avancé aussi. L'ouverture du réacteur, sachant qu'on avait fini la promotion 1, que tout était prêt, et donc je voulais pas forcément attendre, et donc je pense que j'ai bien fait, parce que ça a permis en fait de faire avril, mai, juin et puis septembre pour la promotion du réacteur, plutôt que d'avoir une partie des cours, des suivis collectifs, etc. cet été. Je suis content de l'avoir lancé début avril. Voilà pourquoi est-ce que sur la partie acquisition, j'ai été aussi un peu moins présent, parce que j'ai beaucoup bossé sur la préparation du lancement du réacteur. Ensuite, on avait mon troisième gros pilier, l'expérience 5 étoiles. Donc là, c'est sur le pilier le produit. Donc là, je me mets un 8/10. J'avais notamment délivré la meilleure expérience possible sur la promo 5 du bootcamp avec un taux de satisfaction à 9,8/10, qui est le taux de satisfaction qu'on a sur toutes les promotions du bootcamp aujourd'hui. Alors, j'ai mis vert pour l'instant. Pour une raison, c'est que les gens avaient l'air contents. Le questionnaire à mi-parcours était très, très bon. Maintenant, on n'a pas encore envoyé le questionnaire de fin de bootcamp. Donc, je anticipe, on verra si c'est le cas et si on a cette notation-là. Mais en tout cas, l'ambiance était cool et les gens surtout sont très contents. En fait, au-delà de l'ambiance et tout, c'est que les gens ont vraiment progressé et ça, c'est hyper important. Là-dessus. Toute satisfaction sur le réacteur fin mars. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on pareil, on a eu d'excellents retours sur les 150. On a dû recevoir peut-être 130, peut-être un peu moins, 125 je crois, réponses au questionnaire. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Peut-être un peu moins, je ne sais plus exactement. Bref, on a reçu beaucoup, beaucoup de retours. Et ça, c'est quand même assez rare d'avoir autant, enfin le ratio entre le nombre d'inscrits et le nombre de retours, notamment positifs. C'est aussi rare de l'avoir à un nombre aussi élevé. Donc ça, c'était très cool. On a aussi lancé un système de récompense pour ceux qui étaient impliqués, notamment sur le forum. Donc ça, c'est très cool. Ça a super bien marché sur tout le trimestre. On a lancé aussi un nouveau format de contenu avec Roast My Prospection au sein du réacteur, donc qui est en gros un live où je passe au grill toutes les séquences de prospection que les participants ont fait. Donc ça a super bien marché. C'était un test et donc on va continuer de le répliquer. Donc ça, c'est quand même super cool, quoi. Voilà pourquoi j'ai bien 8/10, parce que globalement là-dessus ça tourne bien. C'est Sonia aussi qui me décharge beaucoup sur cette partie-là. En gros, c'est moi qui crée les contenus, bien évidemment, c'est moi qui suis en live, etc. Mais en fait, tout ce qu'on voit pas, tout ce que les participants voient pas, toute la partie logistique, les emails, etc., en fait, c'est aujourd'hui Sonia qui prend le lead là-dessus et qui propose des choses là-dessus. Donc voilà, c'est très cool. Elle bosse aussi beaucoup sur la partie alumni. Une fois que les gens du bootcamp et les gens du réacteur on termine la formation, ils basculent dans un autre programme qui est complètement gratuit pour eux, qui s'appelle le programme Alumni. Et donc, c'est elle qui a la responsabilité de tout ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis un 8/10, parce que ça tourne très, très bien là-dessus. Et je suis quand même très, très content. Et enfin, on avait le mode Sayen. Donc là, pareil, j'ai mis 8/10. J'avais notamment fait un run 3 fois par semaine. Alors, on n'y est pas. On n'y est pas, les amis, puisqu'on est seulement à 29 runs. Donc, ça fait une moyenne de 2,4 runs par semaine. Donc, on n'est pas loin, mais on n'y est pas. Une des explications, et c'est pour ça que je l'ai quand même mis en vert et je l'ai quand même mis en validé, c'est parce que entre temps, je me suis inscrit à une salle de sport. chose que je voulais faire, mais je trouvais jamais le temps. Et donc je me suis inscrit à une salle de sport avec un coach, etc. Donc un truc assez sérieux. Et j'ai commencé ça début mars. Ce qui fait que, en fait, vu que j'avais pas prévu de faire autant de sport, entre guillemets, chaque semaine, en fait, j'ai sacrifié quelques runs pour aller à la salle le temps de retrouver un rythme un peu plus normal. Ce qui fait que j'ai fait un peu moins de runs que prévu. Voilà. Mais l'idée, c'est de retravailler ça sur le trimestre pour continuer de faire mes 3 runs, plus mes 2 séances de sport à la salle. Voilà, et j'avais 2 autres objectifs là-dessus. J'avais un objectif sur... en vrai, je me suis mis 8, mais en fait, il faudrait que je me mette 7. Parce que j'avais un objectif de 23 heures extinction des lumières, 3 jours sur 5. C'est un énorme fail, sans commentaire. En vrai, je crois que je ne l'ai pas tenu une seule fois. Donc ça, c'est catastrophique. Et j'en avais un autre sur reprendre un peu la lecture. Et donc, je lis tous les jours, mais lire à un rythme un peu plus soutenu. Et je m'étais fixé l'objectif de lire, de terminer 8 livres. Hors manga et BD, qui sont des trucs que je lis vraiment beaucoup, notamment pas mal de romans graphiques, pas mal de mangas. Et donc je n'ai lu que 6 livres et que 2 livres business. Donc j'ai lu beaucoup de SF et les 2 livres business que j'ai lus ce trimestre-là, j'ai relu pour la je ne sais pas combien de deuxième fois Lettre de Lucilius, de Sénèque, et Creativity Inc. que j'ai terminé, que j'avais commencé en fin d'année dernière, mais que j'ai terminé ce trimestre-là. Donc c'est un bouquin de Ed Catmull, qui est un des fondateurs de Pixar, et donc ça raconte un peu le fonctionnement et le développement de Pixar, la boîte Pixar. Hyper intéressant. Mais à part ça, j'ai pas lu, j'ai commencé des livres, là, j'ai commencé Glucose Révolution. Qu'est-ce que j'ai commencé ? J'ai commencé 2-3 livres, mais sur lesquels j'avoue que j'ai moins la motive qu'avant, parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour de pas mal de livres, en fait, et de pas trop apprendre de choses dans des nouveaux livres. Donc voilà pourquoi je lis un peu plus de SF. Là, je suis à fond dans Le Comte de Monte Cristo, donc je relis aussi des classiques. Je suis un petit peu en dessous, j'ai lu 6 bouquins sur 8, c'est pas trop mal, mais on n'y est pas encore. Et voilà, j'ai mis un 7 livres parce que j'avais d'autres choses un peu plus perso. Voilà, je ne vais pas forcément parler, c'est pas super intéressant pour vous, mais ce qui fait que j'ai un 7 sur 10. Donc, c'est quoi la conclusion de ce trimestre-là ? La première conclusion, c'est que je pense que vous l'avez vu, j'étais assez honnête. Je suis loin, voire très loin d'avoir coché toutes les cases de mon plan de 90 jours. En fait, il y a plein de sous-objectifs et d'objectifs d'action que je n'ai pas coché. Et pourtant, il y a énormément de trucs positifs. Et donc, c'est ça aussi que j'ai envie que vous reteniez. Ce n'est pas parce que vous ne cochez pas 100% de vos cases, voire 80%, que vous avez fait un trimestre pourri, que vous devez vous flageller, etc. Moi, en fait, j'ai coché largement moins de 80% des tâches et des actions que je devais faire. Et pourtant, c'est l'un de mes meilleurs trimestres en termes de revenus signés. Donc, pas encaissés, mais signés. On n'est pas loin des 100K de CA signés sur le premier trimestre 2024. Donc, ce qui n'est pas dégueulasse. La collab avec Sonia qui m'accompagne, qui est une ancienne alumine de la promotion K du Bootcamp, qui travaille avec moi depuis l'été dernier et de manière plus intensive depuis septembre, ça fonctionne très très bien. C'est sur des bons rails, elle a vraiment pris l'ownership de plein de sujets en interne, etc. Et elle adore, enfin, c'est elle qui le dit, donc j'espère qu'elle ne me contredira pas en écoutant cet épisode-là si elle l'écoute. Mais globalement, elle est hyper contente, elle se sent bien chez Tribuandé, donc ça c'est un truc cool parce que c'est la première fois que j'ai quelqu'un d'aussi impliqué, en tout cas qui bosse autant de temps sur le bootcamp, enfin sur le projet Tribuandé, toutes les semaines. Donc elle a vraiment un truc régulier où toutes les semaines elle passe à peu près 2 jours, 2 jours et demi avec moi, donc c'est quand même beaucoup. C'est pas juste une prestataire que je prends de temps en temps. Autre point, on a un nouveau partenaire qui arrive, je vous en avais parlé la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus, mais on a un nouveau partenaire qui arrive, qui est vraiment une super boîte sur laquelle je suis hyper content et on va bosser pour au minimum 3 mois ensemble et donc ça c'est très très cool. J'ai un super groupe de pairs et de responsabilités qui fonctionne très très bien, qui m'aide énormément, c'est un vrai pilier pour moi et donc ça fait plaisir et je suis trop content de les retrouver dès ce soir pour avancer sur nos projets respectifs. Et puis mine de rien, j'ai bien pris soin de moi. Même si la fin du trimestre, elle est un peu plus compliquée, je me sens un peu plus fatigué, etc. En termes de charge de travail, j'ai quand même travaillé un peu moins. J'ai quand même pris beaucoup plus soin de moi, des meilleures routines, etc. Et donc ça, je suis quand même très, très content. Même si la fin du trimestre ne donne pas cette saveur à tout le trimestre en entier, en vrai, il y a quand même beaucoup, beaucoup de points positifs, quoi. Et donc, vous voyez que c'est intéressant de voir que vos conclusions, elles sont parfois un peu différentes de tout ce que vous avez coché. Et donc, c'est important de traquer tout ce que vous faites et de prendre un pas de recul et de vous dire ok, j'ai pas coché 100% mais concrètement, qu'est-ce qui s'est bien passé ce trimestre-là, qu'est-ce qui s'est bien passé durant ces 12 dernières semaines. Et moi, j'ai peut-être fait l'un de mes meilleurs trimestres ever sur Tribune D, sur plein d'aspects. On a parlé de revenus, on a onboardé plus de... Là, sur le réacteur, on est à plus de 100 personnes onboardées, donc c'est trop bien sur une deuxième promotion, alors que l'acquisition n'a pas été incroyable sur l'évolution de l'acquisition et de l'audience Tribune D entre décembre et mars a augmenté, bien évidemment. Mais on n'a pas fait x2 non plus. Enfin, on n'a pas fait x35 comme on devrait faire si je veux doubler à la fin de l'année. Et pourtant, en fait, on a des gens hyper bien. Les gens ont commencé à venir se présenter et c'est hyper quali. On a une promotion 5 qui est cartonne sur le bootcamp et qui vient de se terminer. Des nouveaux partenaires. Enfin, franchement, voilà. Voilà là-dessus. Ce que je vous propose, c'est de passer à une autre partie sur un peu... Je me suis noté... Combien de leçons je me suis noté ? Je me suis noté 5 leçons. Je m'en étais noté plus, mais je vous en ai sorti 5. Qui sont parfois juste des notes que je commente, mais des trucs que j'ai notés tout au long du trimestre. Donc la leçon numéro 1, c'est sur la critique. Et les critiques qu'on peut recevoir. Alors, moi j'ai de la chance. En vrai, sur Tribune D, je reçois assez peu de critiques. J'en ai reçu quelques-unes sous certains posts LinkedIn ce trimestre-là. Mais c'est tout, je regarde. Et beaucoup sur... en fait, je ne sais pas pourquoi, mais sur Instagram... Les anciens shorts dont je vous parlais tout à l'heure d'il y a un an, ben, y en a qui ressortent maintenant, donc je sais pas dans à quel point l'algo et tout, etc. Et donc je reçois des commentaires en fait d'anciens shorts, notamment ceux qui ont très bien marché, où je tape un peu sur tout le dev perso, le miracle morning, toutes ces conneries, et du coup bah forcément j'ai des petits rageux qui arrivent en commentaire, je me suis noté ça. J'ai pas retrouvé la rêve du podcast, etc., mais je m'étais noté ça dans mes notes et donc je vous partage parce que je trouve ça cool de le garder en tête. Donc la personne disait: toute personne qui fait quelque chose a contre elle trois typologies de personnes: ceux qui font exactement la même chose que vous, ceux qui font précisément le contraire de ce que vous faites, et encore plus ceux qui ne font rien du tout. Et en fait, je trouve ça génial parce que, en fait, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours des critiques. Plus ou moins violentes, plus ou moins présentes ou autres, mais vous aurez des critiques de gens qui sont des concurrents directs et qui ne veulent pas vous voir réussir parce qu'en fait, c'est des concurrents et donc eux, ce qu'ils ont juste envie, c'est une vision old school, hein, que je partage pas, mais ils ont juste envie que vous disparaissiez, alors qu'en vrai, la concurrence est quand même plutôt saine parce qu'elle éduque un marché... et donc à vous d'être meilleur pour prendre plus de marché, mais en fait les concurrents, moi ce sont des formidables alliés pour éduquer le marché du freelancing, à moi d'être suffisamment intelligent pour prendre plus de parts de marché qu'eux. Mais vous allez aussi vous faire critiquer par ceux qui pensent et qui font précisément le contraire de ce que vous faites. Donc par exemple, en commentaire, quand je parle de Miracle Morning, de dev perso, machin, j'ai tous les gens qui sont à fond dans le dev perso, ce que moi j'appelle les mangeurs de graines globalement, et qui sont pas du tout d'accord et qui ont pas du tout la même vision du monde que moi. Et puis en troisième partie, ceux qui font rien du tout. Et c'est toujours plus agréable de critiquer. Et donc là, c'est souvent aussi les Jean-Jacques qu'on a un peu sur LinkedIn. Jean-Jacques, qui sont pas de la même génération que moi généralement et qui captent pas forcément les mêmes... Pourquoi est-ce que j'ai les réflexions que moi je peux avoir n'ont rien à voir avec leurs réflexions à eux, et souvent parce qu'on n'a pas du tout la même vision du monde, quoi. Donc voilà, ça c'était intéressant. Donc toute personne qui fait quelque chose a contre elle ceux qui font exactement la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et encore plus ceux qui ne font rien du tout. Ma deuxième leçon, je l'ai nommée intentionnalité dans ses objectifs. En fait, ce que je trouve intéressant, parce que parfois on me dit, ouais, mais comment tu fais pour tenir autant tes objectifs ? C'est hyper cadré, c'est hyper structuré, on a l'impression que tu es un peu une machine là-dessus, etc. Oui, je pense que j'ai une tendance naturelle à être cadré, mais en fait, moi, je me suis rendu compte que en fait, si quelque chose est important pour vous, et donc moi, c'est mon cas, en fait, mon business, c'est un truc important, et donc réussir à développer Tribune D, c'est une des valeurs les premières et un des focus premiers de ma vie en ce moment. Mais en fait, si quelque chose est important... vous n'avez pas le choix que de mettre de l'intentionnalité dans le fait de réussir ou pas cet objectif-là. Et en fait, pour mettre de l'intentionnalité, le seul moyen d'en mettre de manière très concrète, c'est de le prévoir et de le noter physiquement. Et donc, le fait de noter physiquement vos objectifs, d'inclure ces objectifs-là dans une routine, dans vos semaines, de faire des bilans hebdomadaires, de noter dans votre agenda ce qui va se passer cette semaine, etc. Oui, ça fait un peu robot. Oui, on me reproche de pas assez vivre, de « Ah, c'est pas bien, tu traques ton temps, machin. » Mais en fait, la réalité, c'est que vous n'avez juste pas le choix. Parce que rien ne se produit au hasard. Et on ne peut pas réussir un objectif si on laisse juste le hasard choisir si cet objectif va ou pas se produire et se réaliser ou pas, en fait. Et donc, oui, c'est cadré, oui, c'est parfois un peu robot, oui, c'est un culte à la performance peut-être, mais en fait, si vous mettez des objectifs ambitieux, vous n'avez pas le choix que de mettre de l'intentionnalité, et le meilleur moyen de mettre de l'intentionnalité dans vos objectifs, eh bien, c'est de les prévoir, de les noter physiquement, de les structurer semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre. La leçon numéro 3, je l'ai nommée « L'argent fait quand même le bonheur ». C'est lié à un post LinkedIn que j'ai fait où en fait je me suis dit « Est-ce que l'argent me rend plus heureux, etc. ?» Et en fait, la réalité, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur, mais je me suis quand même rarement senti aussi heureux que quand j'avais pas le stress financier de « Putain, qu'est-ce qui va se passer, etc. » Et aujourd'hui, c'est quand même très confortable, pardon, de me dire « En vrai, si je fais un mauvais trimestre, voir si je fais une mauvaise année, bah c'est pas très grave. En fait, ça remet pas en question tout mon business. » Et ça, je trouve ça assez cool parce que en fait, aujourd'hui, plus de CA, c'est je délègue plus de tâches, je m'entoure de freelance plus expérimentés, j'augmente aussi la valeur du tribut indé, donc mon entreprise, parce que je travaille avec des freelance expérimentés, je me concentre que sur des tâches critiques et celles sans plus-value pour moi, sur lesquelles j'ai pas de compétences particulières, bah, je me permets de les déléguer à des gens qui sont meilleurs que moi. Et forcément, j'augmente la valeur du tribut indé, ce qui en fait une boîte qui attire à la fois des partenaires B2B, mais aussi du coup des freelances qui veulent se former par la méthodologie tribut indé. Et puis, mine de rien, je gagne du temps libre, en fait. Et en fait, j'ai jamais aussi... En fait, je travaille beaucoup moins qu'il y a 3 ans. Ça ne veut pas dire que j'ai moins de charge mentale, attention, mais je travaille moins en termes d'effort que ce que je faisais il y a 3 ans. Le travail est différent. Maintenant, mon travail à moi, il est concentré que sur des tâches qui sont très critiques et donc qui sont plus stressantes parce qu'elles sont critiques par défaut et donc elles ont un impact direct sur le développement ou pas de tribu indé. Mais en fait, le fait de pouvoir travailler avec d'autres personnes qui exécutent à ma place, ça me permet aussi de, mine de rien, de gagner du temps libre. J'aurais pu faire le choix de travailler plus et de garder le même niveau de travail pour bosser plus et faire encore plus de trucs. Moi, j'ai décidé de réduire ce niveau de travail-là et d'être à l'aise avec ça. Parce que moi, je considère que j'ai un business lifestyle et non pas un business de millionnaire là-dessus. Et je me suis vraiment rendu compte que ça paraît bateau de dire ça, mais en gros, l'argent, c'est vraiment une clé, quoi. Et qu'en gros, apprendre à gagner de l'argent, c'est quand même une super compétence, voire plus, encore plus important qu'une compétence métier. Et donc, savoir bien vendre, savoir bien structurer, savoir bien argumenter, etc., c'était vachement important. Et bref, j'ai fait un post LinkedIn là-dessus qui a vraiment bien marché, je pense, début mars ou fin février. Et donc, c'est une des leçons que je me suis noté et surtout à ne pas oublier, quoi. En fait, faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est pas si important que ça. Faire de l'argent pour en faire un levier, pour plus de temps, pour avoir un projet plus collectif, intégrer des nouvelles personnes, arrêter de vouloir travailler avec des gens qui sont les moins chers possibles, mais travailler avec des gens qui sont profondément bons. En fait, c'est là-dessus où on fait un vrai levier, quoi. Sachant que moi, c'est une boîte où je vais pas lever des fonds, donc c'est une boîte qui est full autofinancée, avec des marges à 80%, et donc tout en gardant ça, je trouve que c'est un exercice intellectuel qui est vachement intéressant. Leçon numéro 4, j'ai écrit différence entre quantité et résultat, notamment à mon stade. En fait, je me suis aperçu qu'aujourd'hui, j'avais plus forcément besoin d'être omniprésent partout, sur tous les réseaux, faire des trucs quotidiens, etc. Et c'est pas un truc d'ego de dire ça, mais je pense que Tribu Indé aujourd'hui est bien solide, à la fois côté B2B. Moi, je me suis rendu compte que j'ai fait quand même beaucoup de calls, des échanges asynchrones avec des boîtes de l'écosystème freelance, créateur économie au sens large, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, toutes les boîtes, elles connaissent Tribu Indé. Beaucoup de boîtes veulent bosser avec moi pour la qualité de ce que je produis et aussi l'engagement de l'audience et de la communauté Tribu Indé. Donc ça, c'est cool. En fait, c'est quand même une bonne preuve que Tribu Indé est connu dans l'écosystème comme un des... écosystèmes de contenu incontournables quand on a une boîte qui veut s'adresser de près ou de loin à des freelances ou à des consultants ou à des prestataires de services. Et puis, côté freelance, je pense que le fait d'avoir relancé le podcast avec un format un peu slow, on est chill, je prends 1 heure de mon temps sans avoir d'ambition, d'acquisition, etc., ça a créé un attachement émotionnel très très fort. Je suis sûr que vous souriez en écoutant ça parce que potentiellement vous avez écouté tous les épisodes du podcast depuis le début d'année. Et forcément, j'ai pas forcément besoin d'être là tous les jours pour produire des choses, pour que vous puissiez vous dire ok, Tribu Indé, c'est vraiment cool, ce qu'Alexis raconte, ça m'aide vraiment, ça me fait réfléchir, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai que j'avais pressenti sur 2023 et que j'acte aujourd'hui. Et donc mon objectif, c'est d'aller beaucoup plus chercher des masterpieces, d'aller chercher des contenus plus waouh effect, plutôt que d'aller chercher du quotidien, des contenus quotidiens vite fait. Et c'est pour ça que, par exemple, vous le verrez, mais dans les objectifs LinkedIn, bah, il n'y a toujours pas publié tous les jours, quoi. Parce que je pense que ça ne me correspond pas et je n'ai pas forcément besoin de ça aujourd'hui. J'ai plus besoin d'aller faire des, ce que j'appelle des coups d'éclat, quoi. Des contenus coups d'éclat qui sont des contenus masterpiece. Mieux vaut en faire moins, mais avec l'audience que j'ai, la crédibilité que j'ai, en fait, le levier, il est là. Là où, si tu commences, et en, que ce soit en freelance sur un autre projet, ce n'est pas du tout la bonne stratégie. La bonne stratégie que tu commences pour te faire un nom, une crédibilité, c'est d'être omniprésent et de tester plein de choses pour voir ce qui fonctionne moins, le positionnement que tu as envie d'avoir, etc. Mais moi, j'en suis plus à ce stade-là. Et donc, je peux me permettre de cultiver un peu plus la rareté. Là où, en fait, au démarrage, si je devais recommencer aujourd'hui, je mettrais tous mes efforts sur LinkedIn et je publierais une, voire deux fois par jour sur des contenus d'expertise pour vraiment me faire un nom parce que, en fait, c'est très facile de se faire un nom aujourd'hui. Le plus dur, c'est d'avoir les compétences. Être connu sur son marché, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus difficile, vraiment. Et puis la leçon numéro 5, c'est sur le mental de Chips. Je vous renvoie vers l'épisode 84 où je traite ce sujet-là en particulier, sur comment est-ce qu'on peut travailler son mental de Chips, etc. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le mental de Chips, en fait, il se travaille à la fois dans la tête, forcément, mais aussi physiquement. Dans la tête d'abord, parce que bah, vous comme moi, on passe probablement 8 à 9 heures devant notre ordi. Donc en fait, nous, nos performances, elles sont plutôt liées au mental. Donc c'est comment est-ce qu'on peut trouver des failles dans les contenus qui existent déjà, comment est-ce que je peux proposer quelque chose de nouveau, comment est-ce que je peux surprendre les personnes qui me suivent ou qui vont me découvrir, comment je peux dépasser aussi les attentes de mes clients sur les différents programmes, dans mes prestats, etc. Mais je m'en suis rendu compte que c'était aussi important d'avoir une bonne discipline en termes de corps pour être performant mentalement aussi. Et donc que cette performance-là, elle passe nécessairement par son alimentation, le fait de faire du sport, d'avoir des routines. En tout cas, moi, d'être le plus cadré possible, ça m'aide dans ma performance. Et c'est vrai que ce trimestre-là, je ne me suis jamais senti aussi bien et aligné en termes de corps-esprit. Et donc, j'ai l'impression que je travaille mon mental de chips et que je me renforce sur cette partie-là. Pareil, si ça vous intéresse, allez écouter l'épisode, vraiment l'épisode 84. J'ai fait une heure dessus sur vraiment la partie mentale, comment est-ce que vous pouvez la travailler, pourquoi c'est important, c'est quoi les leviers sur lesquels vous pouvez jouer. N'hésitez pas à l'écouter, bien évidemment, après cet épisode-là, épisode 84. Eh bien, je vous propose de passer à mon plan sur Q2. Donc mon plan sur Q2, le truc important, c'est que c'est important de garder en tête que quand vous créez votre plan de 90 jours, votre plan trimestriel, c'est extrêmement important de le relier à vos objectifs annuels. Sinon, en fait, vous faites un défocus. Si vous n'êtes pas capable de relier vos objectifs trimestriels à des objectifs annuels, c'est que soit l'objectif que vous avez mis n'est pas le bon, soit il n'est pas assez précis pour pouvoir le relier à un objectif, soit c'est juste un défocus et ça ne doit pas être un objectif prioritaire. Vous le faites si vous avez le temps, mais ça ne doit pas être dans vos gros objectifs du trimestre. Donc, sans surprise, j'ai repris un peu les mêmes catégories que j'avais sur Q1, donc le Show Up Every Week, qui est bien évidemment relié à l'audience et donc au nombre d'inscrits sur le fait de doubler l'audience sur l'année. Donc là, j'ai mis 11 épisodes de podcast, 44 posts LinkedIn, donc j'ai plutôt remis ce que j'avais mis pour le trimestre 1. Et j'ai simplement rajouté les contenus YouTube. Donc j'ai mis 5 contenus YouTube, donc ça peut correspondre aussi à des interviews de podcast. J'ai mis 5 contenus YouTube sur le trimestre. Deuxième objectif, j'ai mis l'incontournable du freelancing. Donc là, c'est la partie acquisition hein, sur la business unit, donc avec l'objectif annuel sur le nombre d'inscrits à la newsletter. Et donc là, j'ai mis quand même mon gros focus du trimestre, c'est les breaks indés. Breaks indés, j'en reparlerai, mais globalement, c'est la 4e édition. C'est une semaine, 12 créateurs freelance qui viennent partager des micro-conférences de 15 minutes sur des sujets très précis. Et donc l'idée, c'est de réunir un maximum de personnes pour créer un événement en live, sans replay, pour que tout le monde puisse bénéficier de l'énergie du groupe. C'est génial ce qui se passe dans le chat, ça va à une vitesse folle. Je le fais avec Shine et notamment Juliette qui bosse chez Shine depuis des années maintenant et qui m'accompagne sur ce projet-là. Et donc c'est un format qu'on adore. Et donc ça va être le gros focus puisque ça arrive en mai, donc en plein milieu du trimestre. Et donc j'ai décidé de ne pas inclure d'autres masterpieces là-dessus parce que ça va être le gros focus du mois de mai et du trimestre. Ensuite, objectif de conversion. Que je n'avais pas forcément mis, puisqu'en théorie, je devais lancer le réacteur sur ce trimestre-là. Ça a été lancé fin trimestre 1, début trimestre 2. En revanche, mi-juin, on relance le bootcamp pour la promotion 6 qui démarra en septembre prochain. Donc là, pareil, 25 à 30 indépendants maximum pour la promo 6 de septembre. Donc là, objectif forcément de conversion avec un objectif de chiffre d'affaires qui correspond à l'objectif annuel. Ce qui est cool, c'est qu'on a déjà 5 ou 6 candidatures, donc ça, c'est très, très bien. L'idée, c'est que on ne communique pas forcément sur l'ouverture. C'est possible de candidater dès maintenant et de pré-réserver sa place. Mais le gros des candidatures et l'ouverture vraiment officielle, entre guillemets, aura lieu à partir de mi-juin. Donc pour celles et ceux qui veulent bénéficier du tarif promotion 5, eh bien, vous pouvez tout de suite candidater. Soit vous m'envoyez un petit message, soit vous arrivez à regarder et à être curieux sur le site internet et à chercher Bootcamp Tribuandé. Normalement, vous pourrez candidater directement et on vous rappelle dans la semaine. Voilà, et ensuite expérience 5 étoiles. Donc on va avoir l'évaluation du à mi-parcours du réacteur sur la promo 2. L'idée, c'est d'avoir un 4 sur 5 en termes de satisfaction. Moi, j'ai envie de sortir un nouveau cours bonus qui sortira fin avril, début mai sur le réacteur. Et puis, on est en run sur la partie Tribu Alumni, qui est notamment pilotée par Sonia avec des demo days, donc des masterclass qui sont faites par les alumni qui nous montrent des choses très concrètes. On a des sessions networking, etc. Donc, il y a pas mal de choses. J'ai un autre petit objectif, mais qui est plus un objectif bonus, dont je reparlerai probablement plus tard, en tout cas, de commencer à diguer le sujet des co-living. Non pas dans le lancer, mais de diguer sur le sujet des co-living, qui est un sujet qu'on me demande très souvent et que j'ai envie d'ouvrir, en tout cas de réserver dans un premier temps à toute la partie, tous les alumni, toutes les personnes qui m'ont fait confiance sur au moins un produit pour créer ça. Et donc, pour l'instant, on explore le terrain. Je dis « on » parce qu'on est plusieurs à travailler sur ce sujet. Voilà, et puis j'ai gardé la partie mode Saiyan, donc la partie plutôt perso, run, salle de sport, alimentation, et je vais essayer quand même le sommeil parce que je sens que j'en ai besoin, donc il faut que je retravaille là-dessus. Pour m'améliorer, j'ai acheté une montre connectée, une Garmin, ce trimestre-là, donc ça me permet de traquer pas mal de choses, de mieux comprendre aussi pas mal de choses, notamment sur mes cycles de sommeil qui sont déjà pas dégueulasses. Mais voilà, du coup, l'idée, c'est de travailler là-dessus. Donc, vous voyez, il n'y a pas de sujet sur le développement de l'écosystème sur ce trimestre-là. Je vous avais parlé de développer l'écosystème de contenu, notamment avec un nouveau produit. Et ça n'arrivera que cet été. Je commencerai à bosser dessus cet été pour une sortie plutôt fin d'année. Donc, vous voyez, on reste focus et routinier sur ce nouveau trimestre. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de regarder un peu comment est-ce que vous pouvez construire votre prochain plan de 90 jours. Alors, avant de faire un plan, c'est important de comprendre pourquoi est-ce que c'est important de faire un plan. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste parce qu'Alexis a dit qu'il fallait faire un plan que c'est intéressant. Je me suis noté 5 points qui sont un peu des arguments / raisons pour lesquels moi je fais des plans et pourquoi vous devriez faire des plans. La première raison, c'est que moi, personnellement, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut progresser si vous ne faites pas de plan. Parce que qui dit que vous faites un plan, dit que vous allez évaluer ce plan-là à la fin du trimestre. Et donc, vous allez pouvoir vous dire, est-ce que je suis dans les cordes, pas dans les cordes, est-ce que c'est concret, est-ce que c'est pas concret, est-ce que c'est réussi, est-ce que c'est pas réussi, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, etc. Et donc, en fait, faire des plans est une très bonne excuse pour progresser, pour pouvoir analyser ce qui s'est passé. Deuxième argument, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, c'est pareil, je comprends pas comment est-ce qu'on peut critiquer le fait de traquer son temps tout en voulant progresser dans son activité. Vous ne pouvez pas progresser dans votre activité de prestation de service, par exemple, si vous ne mesurez pas le temps que vous passez, la rentabilité que vous avez sur chacune de vos missions. En fait, ça n'a aucun sens de vouloir dire « je vais bosser, mieux structurer ma boîte » si déjà vous ne traquez pas le temps que vous passez, est-ce que vous passez sur les bonnes choses, combien de temps vous passez par mission, c'est quoi votre taux de marge, etc. etc. Troisième argument, ça vous permet de prioriser vos actions. Plutôt que de vous laisser vous distraire par des tâches qui sont moins critiques, plus sexy, des opportunités. Là, par exemple, on m'a proposé pas mal de projets collectifs, etc., qui auraient lieu cet été, voire début septembre. Bah, malheureusement, j'ai dit non, quoi. Parce qu'en fait, ça ne rentre pas dans mes objectifs. Quand je regarde mes objectifs, bah, il n'y a aucun truc où je peux prendre des projets autres que ce que j'ai déjà. Donc, malheureusement, bah, je suis obligé de refuser. Et c'est à la fois malheureux pour les personnes qui me proposent, et j'en suis désolé si certaines écoutent ce podcast, mais en même temps, en fait, moi, j'ai besoin d'avancer de manière égoïste sur mes projets. Et donc, ça rentre juste pas dans la feuille de route que je me suis fixée. Quatrième argument, pour moi, c'est un sentiment de motivation et d'engagement vers moi-même de faire ces plans-là. Et enfin, ça réduit aussi l'incertitude et les prises de décision que je peux avoir sous le coup de l'émotion. Pourquoi ? Parce que En fait, il y a plein de moments où moi je doute. Il y a plein de moments où je me dis, putain, est-ce que je fais vraiment bien les trucs? Ou quand, par exemple, quelque chose se passe mal, je suis parfois en train de remettre en question la terre entière en mode, putain, c'est pas ça qu'il aurait fallu faire, etc. Sauf que si vous prenez des décisions dans des moments où vous êtes sur des émotions, parfois des émotions négatives, bah, en fait, c'est très, très mauvais. C'est là où vous faites des erreurs. Et donc, le fait de faire ces plans-là et de m'y tenir, bah, ça permet de me dire, au moment où je fais ce plan-là, je ne suis pas sous le coup de l'émotion. Ça a été réfléchi. J'ai pris du recul dessus, je les ai actés. Et donc, en fait, même sur des périodes de tempête, de doute, etc., hop, je ne change pas ce plan-là. Je fais confiance à mon moi du démarrage du trimestre qui était confiant, qui avait la tête sur les épaules, qui n'a pas agi sur le coup de l'émotion. Ça a toujours été bénéfique et positif. Ça fait des années que je fais des plans et ça fait des années que je sens que vraiment, j'aurais pu faire des conneries si je n'avais pas eu ces plans-là à un instant T. Voilà, j'avais déjà expliqué comment est-ce que vous pouviez travailler vos plans d'un point de vue macro dans l'épisode 79. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de vous donner des questions concrètes auxquelles je réponds chaque trimestre pour faire le bilan de mes plans et préparer mes prochains plans. Et donc, ça sera un bon complément avec l'épisode 79 si vous l'avez déjà écouté. Donc globalement, comme moi, je fais mes plans, j'ai 4 phases. La première phase, c'est une phase de vision long terme et d'objectifs annuels. La deuxième phase, c'est le bilan des 90 jours précédents. La troisième phase, c'est une phase que j'ai appelée projection libre. Et la quatrième phase, c'est ce que j'ai appelé la planification. Donc globalement, la première phase, vision long terme et objectif annuel, l'idée, c'est que moi, j'ai un document de vision. C'est un document qu'on travaille notamment dans le bootcamp, qui donne des intentions, pas forcément des objectifs, mais des intentions sur ce que vous avez envie d'accomplir et là où vous avez envie d'aller dans 5 ans. Et ça peut être vachement différent de ce que vous faites aujourd'hui. Et donc, c'est un document dans lequel il y a plein de questions. On travaille plein de petits exercices, etc., de visualisation, etc., pour vous permettre de créer ce que j'appelle un document de vision. Et donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que tous les trimestres, je relis ce document de vision-là. Donc, déjà, premier point, ça me permet de mettre à jour, ça me permet de retirer des choses, ça me permet de me rappeler certaines choses, etc. Et surtout, je relis mes objectifs annuels, toujours important, parce que moi, je les ai pas. J'ai dans les grandes lignes en tête les trucs, mais c'est toujours bien de les relire pour se dire, OK. Quand je vais penser bilan plus projection 90 jours, je garde en tête ces objectifs annuels-là. Ensuite, deuxième phase, c'est celle qui prend le plus de temps, c'est le bilan des 90 jours précédents. Et donc là, je me pose tout un set de questions que je vous partage, sur lesquelles vous pouvez vous les noter et y répondre. Certaines questions sont plus ou moins difficiles. Première question, c'est qu'est-ce qui a bien marché pour moi sur ces 3 derniers mois? Et donc là, je prends tous les aspects. Aspect projet, aspect objectif, aspect opportunité, aspect chiffre d'affaires, aspect collaboration, routine, temps moyen passé à travailler, satisfaction perso, etc., etc. Deuxième question, qu'est-ce qui a moins bien marché et surtout pourquoi ça a moins bien marché? Parce que c'est cool de dire ce truc-là, je n'ai pas atteint, ce truc-là, je ne l'ai pas fait. C'est encore mieux d'essayer de résoudre la problématique du pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a fait, selon moi, avec le recul que j'ai, qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés? Est-ce que c'est un manque de temps, un manque de préparation? J'ai pas été clairvoyant sur la stratégie. J'ai manqué de compétences sur tel et tel sujet. Le fait d'aller chercher le pourquoi, ça va permettre de retravailler sur le prochain plan. Troisième question, si j'étais extérieur à mon business, qu'est-ce que j'aurais pensé de ces 3 derniers mois? C'est peut-être une des questions les plus difficiles, ça vous permet de prendre du recul. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir des groupes de responsabilité, des groupes de pairs qui vous suivent depuis un certain temps. Vous pouvez leur poser ce genre de questions-là parce qu'ils connaissent aussi très bien votre business. Quatrième question, est-ce que j'ai accompli tout ce que j'avais prévu dans mon plan? Et sinon, pourquoi? Ensuite, quelles sont les 3-4 leçons que je retiens de ce trimestre-là et qui vont pouvoir m'aider sur les prochains trimestres? Donc c'est souvent, moi, j'en mets un peu plus maintenant que 3-4. La preuve, c'est que je vous en ai partagé, je crois, 4 ou 5 juste avant, mais j'en ai encore un peu plus. Je vous ai fait un petit tri avec les meilleurs. Et enfin, prochaine question, quelles sont les 3-4 actions qui apportent peu de valeur au business et que je devrais arrêter de faire? Avant-dernière question, si j'avais à côté de moi quelqu'un qui avait 3 à 5 ans d'avance sur moi, qu'est-ce qu'il ne ferait pas? Et enfin, dernière question, est-ce qu'il y a des choses que j'évite de faire parce que j'ai peur de rater? C'est peut-être la question la plus deep et la plus perso. Et donc ça, généralement, vision long terme, objectif annuel et bilan des 90 jours, généralement, c'est une demi-journée de réflexion. Ça ne veut pas dire que je passe une demi-journée dessus à fond, mais en fait, je bloque une demi-journée, donc je vais me balader, je me pose un café, je laisse mon esprit un peu divaguer pour pouvoir un peu réfléchir à ces questions-là et qu'elles tournent un petit peu en fond de tâche pour pouvoir y répondre après. Et ensuite, on arrive sur les 2 autres sujets, la partie projection libre. Donc la projection libre, c'est j'essaie de me demander qu'est-ce que je vais pouvoir lancer, c'est quoi les trucs que j'ai envie de tester, c'est quoi les par rapport aux leçons que j'ai apprises, etc. par exemple. Donc là, c'est phase de divergence. Je me demande pas encore si c'est pertinent de le faire à ce trimestre-là, si c'est pertinent de le faire dans ce... est-ce que c'est lié à un objectif ou pas. Là, j'essaie de mettre tous les trucs qui m'excitent de faire sur le prochain trimestre. Et ensuite, je converge lors de la planification et je sélectionne. Qu'est-ce qui a le plus de chances de me faire réussir tel ou tel objectif? Qu'est-ce qui a le plus de chances de me rapprocher des objectifs annuels, etc. Et donc là, je ne mets pas plus de 4 gros sujets. Donc vous avez vu, moi, je vous ai mis un peu mes 4 gros objectifs du trimestre. Je vous conseille de ne pas avoir plus de 4 gros sujets là-dessus, avec des résultats les plus concrets possibles. Donc, objectif de résultat et objectif d'action. Objectif d'action, vous avez le contrôle dessus. Donc ça, c'est extrêmement important. Et objectif de résultat, pour le coup, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Vous pouvez vous dire, en fait, pour arriver à cet objectif-là de résultat, je dois faire 3 actions. Mais ça ne veut pas dire que si vous réussissez ces 3 actions-là, vous allez automatiquement réussir votre objectif de résultat. Donc voilà un petit peu comment je fais ça. Et ensuite, vous voyez, je me fais mon petit tableau, mon petit plan. Et comme ce que je vous ai partagé, mes objectifs de résultat et mes objectifs d'action, faire des épisodes de podcast, post LinkedIn, etc., etc. Et ensuite, je passe en mode technicien et donc j'attaque. Chaque semaine, j'attaque tous les sujets pour les tacler un par un. Et en fait, vous allez voir que 12 semaines, ça passe extrêmement vite. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cet épisode-là. C'est terrible, hein, j'avais dit que ça serait plus court. Eh bien, ce n'est pas du tout un épisode plus court, c'est presque un épisode plus long que d'habitude. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Ravi d'avoir fait ce petit bilan un peu bidine public avec vous sur ce trimestre-là. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je creuse certains sujets que j'ai abordés sur ce trimestre-là et sur ce bilan-là. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, mais surtout, on se retrouvera dans 3 mois. On fera le bilan de cet épisode-là. Avec les objectifs que je vous ai donnés. Le fait de m'engager publiquement maintenant dessus, ça me donne une motivation supplémentaire pour aller cocher un peu plus de cases. Parce que si on coche plus de cases et qu'en plus je suis content de mon trimestre, on fait un excellent trimestre et on améliore le trimestre précédent. Voilà. Écoutez, on est arrivé au bout de cet épisode. Encore une fois, je pense que vous ne vous rendez pas forcément compte du travail derrière chaque épisode de podcast. Dites-vous que les épisodes solo, donc en mémo comme je fais là, c'est probablement les épisodes qui me prennent le plus de temps et d'énergie à faire parce qu'en fait, je parle tout seul pendant, là, ça fait plus d'1h10 que je parle. C'est aussi pour ça que vous avez assez peu finalement d'épisodes solo qui se lancent, mais surtout qui durent dans le temps parce qu'en fait, les gens se rendent compte que c'est très dur. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup, qui me challenge aussi intellectuellement, que j'aime beaucoup écouter chez d'autres. Donc voilà. Si vous appréciez vraiment ce genre de contenu, que vous appréciez ce format solo et que vous appréciez Tribu Indé et ce que je fais derrière, 2 petites actions très simples. La première, c'est de noter, encore une fois, l'épisode sur Spotify ou Apple Podcast. C'est un clic, on est à moins de 10 notes des 200 notes sur Spotify. Faites-moi plaisir, régalez-moi d'ici le prochain épisode, s'il vous plaît, mettez-moi des notes sur Spotify. Et puis partagez le podcast à un copain business qui est en train de se poser des questions sur son prochain plan, sur comment est-ce que la ligne directrice qu'il a envie de donner à son prochain trimestre. Il vous remerciera et moi je vous remercie d'avance pour ça. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.